Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Comment mieux lutter contre les infections sexuellement transmissibles chez les jeunes? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans Priorité Santé. On constate ces dernières années une augmentation de l'incidence de ces IST chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans en France, ce qui entraîne des conséquences importantes en termes de santé individuelle, physique, psychique et aussi de santé publique. Et on en parle car hier, le Conseil national du sida et des hépatites virales a organisé un colloque sur le thème « Améliorer la lutte contre les IST chez les jeunes en impliquant l'ensemble des acteurs de santé publique, de santé sexuelle. Alors, quel est le rôle justement de l'école? Comment le médecin généraliste constitue-t-il un premier recours dans le dépistage, dans la prise en charge? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en matière de prévention? C'est ce qu'on va voir avec mes invités, le docteur Catherine Favier, qui est médecin responsable des programmes santé sexuelle du planning familial et membre du Conseil national du sida, Ferriel Kramdi, qui est conseillère experte au Conseil national du sida et des hépatites virales, rapporteur de l'avis suivi de recommandations sur la prévention justement et la prise en charge de ces IST chez les adolescents et les jeunes adultes, et Juliette Macker, qui est animatrice de prévention au CRIPS, qui est le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida pour la Santé des Jeunes. Vous pouvez nous appeler, comme d'habitude, au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Mohamed Cissé, qui est chef du service de dermatologie MST du CHU de Donka en Guinée-Conakry. Docteur Karine Favier, bonjour.
Bonjour à
vous. Vous êtes en direct de Montpellier. Vous êtes dans les studios de France Bleu Hérault. Bonjour à Ferriel Kramdi et Juliette Macker. Merci à toutes les trois d'être là pour parler de ce sujet si important, dont ce que j'ai bien compris, si j'ai lu tous les rapports, vous trouvez qu'on ne parle pas assez justement de ces IST. Docteur Karine Favier, d'abord, quelles sont les principales infections sexuellement transmissibles?
Alors, juste pour répondre à votre première question, effectivement, on a un discours, et encore en baisse en France, sur la question du VIH. Et ça, c'est une IST que les jeunes ont repérée, avec des connaissances qui sont plutôt en baisse d'ailleurs, sur les transmissions et sur où on en est exactement, est-ce qu'on guérit ou est-ce qu'on se soigne. Ça, c'est quelque chose qui... Mais alors, l'ensemble des autres IST dont on va parler aujourd'hui est vraiment très peu connu et complètement négligé, sauf quand vraiment il y a des gros signes et qu'on consulte parce qu'on souffre ou qu'on a des soucis. Mais globalement, les infections les plus importantes dont on a pu montrer hier, les courbes qui montent pour les chlamydia, en particulier chez les jeunes femmes, là, dans cette tranche d'âge, on voit l'augmentation du VIH, mais plutôt chez les jeunes garçons qui ont des relations avec des hommes, mais globalement, chlamydia gonos sont en train de monter de façon significative dans les tranches d'âge qui nous préoccupent, et avec une méconnaissance complète, ce qui est d'autant plus embêtant parce que justement l'infection par chlamydia qui est si fréquente, qui est certainement l'IST la plus fréquente au monde avec vous savez 357 millions d'IST par an contractés
dans
c'est
le monde.
Une IST qui est pas parlante, qui est
silencieuse,
cachée,
tout simplement qui est silencieuse
par la
pendant
suite
longtemps.
Peut donner des stérilités ou des complications importantes.
Donc vous en avez cité trois pour l'instant d'IST.
Continue à être cité, l'hépatite B aussi, mais les autres IST doivent avoir aussi droit de cité et on doit pouvoir en parler partout pour que l'information circule.
Docteur Karine Favier, donc vous avez parlé du sida, l'IST la plus fréquente, enfin à part les chlamydia, la plus connue en tout cas. Vous avez parlé de l'hépatite B, vous avez parlé des chlamydia, vous avez parlé de la gonocoxie. Quels sont les autres IST?
Alors la gonocoxie, c'est la chaude pisse ou la blénorragie, hein, celle qui donne des brûlures et qui fait mal. Ça, c'est quelque chose qui est relativement traité. Le souci pour
parce
ces
que ça
infections,
fait mal.
C'est plutôt les résistances au traitement qui apparaissent, mais ça, c'est une autre... Ensuite, il y a le papillomavirus qui donne des espèces de verrues, qu'on appelle des crêtes de coq ou des condylomes, mais qui donne surtout à terme pour les filles des cancers du col pour certaines souches et qui sont très pernicieuses aussi parce qu'elles ne donnent pas de signes. Et le dépistage du cancer du col ou le vaccin pour le papillomavirus ne sont pas forcément accessibles partout dans le monde. En France, on a la chance d'avoir un accès, mais le vaccin n'est pas remboursé et cher. Et le dépistage, eh ben, il n'est pas fait par toutes les femmes. Et c'est une incitation au dépistage qui doit accompagner l'information autour du vaccin.
Il y a la syphilis aussi, qui est en recrudescence.
Alors la syphilis, dans nos pays, autant c'est beaucoup plus développé dans d'autres pays, en particulier avec une transmission mère-enfant. Dans nos pays, c'est une maladie qui avait presque disparu, qui est revenue à la faveur de l'épidémie de VIH et qui est aujourd'hui déborde les populations les plus touchées par le VIH, HSH, et qui on retrouve aussi en augmentation, y compris chez les femmes.
Il y a l'herpès, je ne sais pas si vous l'avez cité, ça fait partie des IST ?
Alors l'herpès, bien sûr, qui est très très bien transmis, très contagieux, qui par contre souvent donne des signes, et là on y a plutôt une incitation à se traiter parce que c'est douloureux et ça peut être gênant, et donc il y a plutôt des... En gros, on a un peu deux types de maladies. On a les maladies qui donnent des signes et qui vont amener à consulter parce qu'on va être gêné. Et puis, tout un tas de maladies comme l'hépatite B, le HPV, enfin le papillomavirus, le VIH, les chlamydia, qui sont des maladies silencieuses et qui, s'il n'y a pas d'information et de dépistage, d'incitation à la consultation régulière, vont pouvoir passer inaperçus et ensuite donner des complications. Et c'est pour ça que c'est très important que ces informations circulent, soient largement connues et que chacun puisse pouvoir assurer son suivi et sa sécurité.
Feriel Kramdi, est-ce qu'on comprend un peu mieux quelles sont les causes de cette augmentation ? On a parlé d'un relâchement des comportements, mais c'est pas la seule cause.
Non, c'est pas la seule cause. Ce qu'on a pu identifier dans les auditions des professionnels de santé intervenant auprès des jeunes, que la prévention ces dernières années qui a été axée sur le VIH et la contraception a un peu éclipsé les questions relatives aux IST. Et donc on s'aperçoit que même si lorsqu'on parle des IST, on va facilement identifier la question du VIH et du SIDA, les autres IST qui posent un enjeu majeur de santé publique sont moins identifiés par les jeunes.
Et donc ce que vous dites, c'est qu'en gros, les causes de cette augmentation seraient probablement dans la non-information des jeunes sur ces questions-là.
La non-information, la méconnaissance, oui.
La méconnaissance parce qu'ils ne sont pas informés. Vous vouliez réagir à ça, Juliette Macaire ?
Oui. Du coup, c'est vrai que le VIH-SIDA sur toutes les IST, c'est celle qui revient le plus, mais ce n'est pas sous-estimant le reste. C'est vrai qu'on en parle aussi. Et en même temps, donc au CRIPS, on n'a pas du tout non plus un discours de peur.
Alors justement, comment vous faites de la prévention au CRIPS auprès des jeunes ? Qu'est-ce que vous leur racontez sur ces questions d'IST ? Sans justement ce que vous dites leur faire peur.
Alors en fait, déjà... on les rend acteurs et actrices. On suscite l'intérêt chez eux. On leur donne pas info tout cuit dans le bec, si je peux m'exprimer ainsi.
Vous leur dites pas à faire un cours aujourd'hui sur les IST.
Non, voilà, c'est pas ça. Il faut vraiment les rendre acteurs et actrices, chacune d'entre eux, pour qu'ils s'intéressent et non pas justement en les effrayant. Oui, on le dit qu'il y a des risques. On explique également comment la transmission peut se faire. En l'occurrence, c'est le VIH qui revient le plus fréquemment. Mais on n'émet pas le fait qu'il y ait autre chose. Oui, on l'émet, mais c'est pas réellement quelque chose de pertinent.
Mais concrètement, vous organisez ça comment ? Vous allez dans des classes, vous parlez sexualité, à l'occasion, vous parlez du coup des IST. Comment ça se fait concrètement ?
Alors, juste du coup, je voulais finir là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'on n'émet pas non plus une liste de toutes les... Enfin, ça nous arrive, mais pour ainsi dire, quasiment jamais de pouvoir lister. Alors oui, il y a le chlamydia, oui, il y a ceci. C'est pas quelque chose de pertinent et de productif de pouvoir lister. C'est quelque chose qui se fait pas, en tout cas pour ma part. Je sais que bon nombre de collègues aussi. Mais du coup, comment on fait? C'est vrai que la question déjà plaisir vient beaucoup sur le tapis, quoi, sur la table, parce que oui, chez les jeunes, recréer le sentiment de plaisir, le corps de l'autre, le mien, voilà, il y a déjà ça à travailler, j'allais dire retravailler, mais oui, à travailler d'abord, parce que oui, les IST sont là, elles existent bien.
Mais concrètement, en fait, moi j'ai très envie de comprendre concrètement comment ça se passe. Vous êtes sollicité par une école pour intervenir dans une classe, et alors vous rentrez dans la classe, vous commencez comment?
Alors,
parce que vous avez une classe devant vous qui est prête à ricaner, j'imagine.
Ah non, mais alors donc du coup déjà ça dépend des âges. C'est vrai qu'on commence...
Alors, faut commencer à quel âge ?
On commence au collège. Donc, il peut nous arriver d'intervenir sur des classes de quatrième, mais c'est vrai que troisième, c'est le plus fréquent. Et puis après, voilà, donc lycée, avec les secondes, et puis les CFA, donc des apprentis. Et on a aussi un autre pôle. Là, c'est plutôt notre scolaire, mais aussi notre pôle un peu public prioritaire, on l'appelle comme ça, avec des jeunes en situation de handicap. Des primo-arrivants, des migrants, des jeunes en protection judiciaire, en milieu carcéral, etc. Et bah voilà comment ça peut se passer. Une animation donc de 2 heures qui...
Vous commencez par quoi? C'est ça qui m'intrigue. Comment vous abordez le sujet?
Moi, je sais que j'aime beaucoup commencer à poser la question de... est-ce que vous savez pourquoi on est ensemble aujourd'hui? Ah oui, le sida, oui, 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 la sexualité, d'accord, ok. Est-ce qu'on vous a dit autre chose? Oui, non, bon, voilà, les esprits se calment un peu aussi. Et en même temps, s'il peut y avoir, selon les âges, du coup, plutôt de la distance et en même temps, justement, les ricanements, comme vous disiez. Et une fois qu'ils répondent ça ou pas, oui, on leur répond. Voilà, c'est exactement la thématique du jour, la vie affective et sexuelle. Et bah, qu'est-ce que ça vous inspire, cette thématique, vie affective et sexuelle? Donc oui, il y a des mots, et les fréquemment, maladie peut venir. Je sais que j'aime bien aussi poser la question de, mais est-ce qu'il y a que ça dans la vie affective et sexuelle, les maladies? Ah bah non, des bisous, et voilà, et on creuse un peu là-dessus. Et après, on a des outils d'animation...
Donc vous partez beaucoup de leurs questions.
Tout à fait.
Claire,
oui. Justement, je voulais vous faire agir, c'est très bien.
Une petite intervention par rapport à ce qui s'est passé hier au colloque, où en gros on a eu des professionnels, un peu des intervenants, des infirmières scolaires, des médecins, des associations. Ce qui est revenu fortement, c'est effectivement que tout le monde était d'accord sur le fait de partir des besoins et des attentes des personnes. Il y a eu quelque chose de très intéressant, il y a eu la présentation d'une enquête qui avait été faite dans le quartier des Francs-Moisins par un centre de santé auprès de 200 jeunes. Et en fait, les professionnels de ce centre, qui pourtant sont plutôt motivés, plutôt des gens investis, puisqu'ils ont un centre avec un comité des usagers, etc., abordaient les questions des IST avec les jeunes sur à peu près 10% de leur clientèle. Et quand on a fait l'enquête auprès des jeunes, 65% des jeunes disaient que leur première préoccupation, c'était les IST dans le domaine de la sexualité. Et donc, on se rend compte que peut-être, effectivement, comme le disait l'intervenante, il faut trouver la manière de l'aborder et pas être là à faire peur, mais que c'est quand même une préoccupation et que certainement qu'il faut trouver le chemin pour arriver à évoquer avec eux ces questions, parce que souvent ils les ont en arrière-plan, ils n'osent pas forcément l'exprimer, et des fois aussi c'est la peur d'être bête, de poser des questions où on montre qu'on ne sait pas, qui peut être délicate. Et donc il faut vraiment trouver effectivement pour chaque classe d'âge, pour chaque jeune, quelles que soient ses préoccupations ou les moyens et les outils qui sont appropriés, mais que c'est quand même quelque chose qui les intéresse, les préoccupe, et que quand on arrive à tisser ce lien, ces questions les motivent par curiosité et aussi pour savoir comment gérer leur vie. Et effectivement, c'est pas la peur, mais c'est l'autonomie et la capacité à se gérer qui doit être développée. Je suis bien d'accord que il faut pas être sur un mode de peur, mais peut-être on sous-estime leur intérêt et leurs préoccupations sur ces questions, et il faut peut-être aller un peu plus les chercher que ce qu'on fait.
Feriel Kramdi, dans le rapport dans l'avis du Conseil national du SIDA, il ressort que ce qui est fait en termes d'information dans les les écoles est en fait très faible apparemment. C'est simplement 10 à 20% d'ailleurs le chiffre, ce qui prouve bien qu'on a une idée pas très précise. 10 à 20% des élèves reçoivent le nombre d'heures d'éducation à la sexualité qui est normalement prévu.
Oui. Oui, c'est une enquête qui a été réalisée par le HCE.
Le Haut Conseil à
l'égalité hommes-femmes. Voilà, leur rapport date de 2016, je crois, de juin 2016, et ils évaluent, oui, à 10 à 21%. La loi actuellement prescrit qu'il y ait trois séances annuelles de 2 heures. On est loin du compte.
On est loin du compte et du coup, on ne parle pas suffisamment des IST. Docteur Karine Favier, il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent pour vous poser des questions. On a Oumar qui nous appelle de Conakry en Guinée. Oumar, bonjour.
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 On vous écoute, Oumar.
Je suis Oumar So.
Oui.
J'ai contracté une IST lors de ma première expérience sexuelle. J'avais 16 ans. Et... là, comme je vous ai dit que la sexualité en Afrique, c'est un sujet tabou, il n'y a pas d'éducation sexuelle dans la famille, je ne connaissais rien. Étant adolescent, je voulais expérimenter tout. Après cette expérience, 2 mois après, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du bas-ventre. Et au fur et à mesure, ça continuait et la douleur s'intensifiait. Je souffrais le martyr quand je pissais et je ne pouvais parler à personne. Comme c'était un sujet tabou, j'ai camouflé ce mal. Après quelques mois aussi...
Et vous êtes quand même au bout d'un moment, vous êtes allé consulter un médecin?
Non, pas encore. J'ai continué comme ça aussi. J'ai continué jusqu'au moment où il y a eu l'apparition des boutons sur mon corps. C'est là que mes parents ont constaté cela et ils m'ont demandé de passer des examens. Je m'en doutais moi, mais je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'ai une IST.
Et laquelle?
J'ai suivi, c'était la syphilis.
Mmh.
Alors, ils m'ont donné des traitements. J'ai suivi 2 mois de traitement. Ça allait maintenant, mais je vous dis, c'était la honte, je pouvais pas parler, c'est devenu, en famille, c'était devenu autre chose, parce que c'est très tabou, j'avais la honte, je ne parlais
et
à
Oumar,
personne.
Oumar, aujourd'hui, vous êtes guéri?
Ouais. J'ai suivi après le traitement, j'ai refait des tests, ça va, on me dit qu'il n'y a rien, mais le problème, jusqu'à présent, il m'arrive de ressentir quelques douleurs au niveau du bas-ventre. J'ai refait des tests, des examens, refait encore. On me dit que ça va, je n'ai rien actuellement, ça va.
Et votre question, c'est ça, vous vous inquiétez de savoir si la maladie peut refaire surface?
Oui, ma première question.
Et la deuxième, c'est quoi?
La deuxième, c'est que je me demande pourquoi ces IST sont plus fréquentes en Afrique subsaharienne qu'en Europe.
Alors, docteur Karine Favier, je ne sais pas si elles sont plus fréquentes en Afrique qu'en Europe,
alors,
d'ailleurs.
Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, ce qui montre que la question de l'information et de l'acceptabilité des IST est importante pour pouvoir assurer le traitement. Peut-être qu'il y a des endroits plus dédiés aux jeunes qui existent. Il y a, par exemple, pour la santé reproductive, il y a des lieux d'accueil qui donnent la contraception ou l'information aux jeunes. Peut-être que c'est vers aussi ces centres qu'il faut se diriger quand on est jeune et qu'on est un peu gêné par une IST parce qu'il y a une acceptation. Et peut-être que votre travail maintenant, Oumar, ça sera d'informer autour de vous les jeunes sur l'importance de se faire dépister et puis de repérer les lieux qui accueillent plus particulièrement les jeunes autour des traitements des IST et de la sexualité.
Alors,
ça,
si
c'est
on
première
prend,
chose.
Après, si on prend la question d'Oumar,
si on prend la question d'Oumar
sur la syphilis.
Pour le traitement de la syphilis actuellement marche, il n'y a pas de... Par contre, peut-être il y a eu plusieurs IST parce que la syphilis ne donne pas forcément de signes. C'est une maladie qui donne assez peu de signes jusqu'à l'apparition, effectivement. Au début, ça donne des petites
lésions
au niveau du sexe.
Alors, docteur Karine Favier, je vous interromps, mais on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour continuer à répondre à Oumar sur les IST.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous essayons de voir comment mieux lutter contre les infections sexuellement transmissibles chez les jeunes. Pour en parler, trois personnes autour de cette table. Docteur Karine Favier, qui est médecin responsable du programme santé sexuelle du planning familial et membre du Conseil national du SIDA. Feriel Kramdi, qui est conseillère experte au Conseil national du SIDA et des hépatites virales et qui a été rapporteur de l'avis suivi de recommandations sur la prévention et la prise en charge des IST chez les adolescents et jeunes adultes. Et Juliette Macaire, qui est animatrice de prévention au CRIPS, qui est le Centre Régional d'Information et de Prévention du SIDA et pour la Santé des Jeunes. Et je vous rappelle le téléphone, le 33 1 80 82 75 75. Juste avant les informations, on était en ligne avec Oumar, qui nous appelle de Conakry en Guinée. Il est toujours avec nous au téléphone, il a 20 ans. Et lors de sa première expérience sexuelle à 16 ans, il a contracté une IST. Et docteur Karine Favier, vous étiez en train de lui répondre, parce que sa première inquiétude, donc il avait eu une syphilis, il voulait savoir si la maladie pouvait refaire surface une fois qu'elle avait été traitée. Vous étiez en train de commencer à lui répondre en disant qu'il y avait peut-être d'autres IST aux alentours.
Oui, ce que je lui disais, c'est que en général, les premières manifestations de la syphilis, c'est des petits chancres, des petites lésions sur le sexe, et que ensuite ça disparaît et vient la période, ce qu'il a connu, des boutons qui se voient, qui sont la syphilis secondaire. Donc c'est possible qu'il ait eu cette infection, et en même temps, comme il signalait qu'il avait des brûlures quand il urinait, mal au bas-ventre, peut-être une autre infection qui l'a gêné aussi et qui a été traitée suivant le traitement qu'on lui a donné pour la syphilis. Ce que je voulais souligner, c'est que c'est important de la question qu'il se posait sur pourquoi les IST seraient plus fréquentes dans tel pays ou tel pays. La question du traitement précoce, c'est aussi une garantie de prévention de la transmission. Et peut-être que le retard au diagnostic, le retard à l'accès aux soins, le retard à l'information entraîne une diffusion des IST qui n'existe pas quand on peut se dépister trop facilement, se traiter facilement, et puis éviter ainsi de contaminer d'autres partenaires. Donc le suivi le suivi est important, c'est-à-dire que s'il y a eu des IST, il faut qu'ils voient maintenant si effectivement la surveillance avec les prises de sang ou avec des prélèvements locaux est satisfaisante, mais il peut y avoir quelques petites séquelles si une infection a traîné, une gono qui traîne ou une syphilis qui traîne peut entraîner des troubles, et il faut continuer à être suivi pour voir si tout va bien dans la.
Mais une fois que le traitement a été suivi, on est guéri de la maladie. Entre guillemets, si on refait.
Peut refaire une syphilis.
Mais parce qu'on a eu une relation sexuelle non protégée. Ça ne réapparaît pas tout seul, c'est ça que je voulais dire.
Absolument. Quand la syphilis, il y a une première phase où il y a une lésion, ça disparaît et ça réapparaît en phase secondaire. Mais une fois que le traitement est fait, la syphilis est traitée. Ouais. Une recontamination est possible. Il n'y a pas de vaccin anti-syphilis, il n'y a pas de prévention. C'est pas parce qu'une fois on a fait la syphilis qu'on est protégé à vie. Au contraire, on peut l'attraper facilement, il n'y a pas de souci.
D'où l'intérêt de se protéger. Vous vouliez réagir, Juliette Macaire?
Oui, en fait, c'est ce qu'on dit en fait depuis un peu, entre guillemets, la nuit des temps, c'est ce préservatif. Finalement, on dit souvent aux jeunes en animation, alors ce préservatif, il protège de quoi? Des maladies, des grossesses. Et une contraception. Et donc ça sert à quoi une contraception? Se protéger. Oui, se protéger de quoi? Des grossesses et des maladies. Ah, donc qu'est-ce que vous connaissez comme contraception? La pilule, le patch, le stérilet, qui est anciennement stérilet avec le DIU maintenant, dispositif intra-utérin. Ah, donc en fait la pilule, ce DIU, le patch.
Ça protégerait des IST.
Eh ben non. Et voilà. Et donc on leur redit bien.
Confusion entre ça protège de la grossesse
parfois,
et ça protège des
vraiment,
IST.
Vraiment, ouais. Ça revient très souvent. Ouais. Donc
d'où l'intérêt d'aller informer. Voilà. On a au téléphone le professeur Mohamed Cissé, qui est chef du service de dermatologie MST du CHU d'Onka en Guinée-Conakry. Bonjour, professeur Mohamed Cissé.
Bonjour Claire.
Vous êtes également vice-président de la Société dermatologique d'Afrique francophone. Je voudrais que vous réagissiez au témoignage qu'on a eu d'Oumar dans la première partie de l'émission, qui donc a attrapé, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, a contracté une IST quand il avait 16 ans lors de sa première relation sexuelle. Et il nous a dit que ça a été très compliqué d'en parler en famille parce que c'est excessivement tabou. Vous nous confirmez cette question du tabou des relations sexuelles chez les jeunes qui pourtant sont une réalité?
Tout à fait clair. Vous savez, chez nous, en Afrique, c'est très difficile de parler de sexualité avec les parents. ou des proches, et surtout quand on est jeune, et parce que chez nous, on considère que les jeunes n'ont pas droit à cette sexualité. Alors, ce qui fait que lorsque les jeunes contractent des IST, et s'ils n'ont pas d'amis, n'ont pas de structure avec laquelle ils vont prendre contact, ça va être difficile pour eux de s'exprimer. Et le temps passant, ces IST se compliquent et ces jeunes se retrouvent avec des complications. C'est un vrai problème chez nous.
Et alors, est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence de ces IST en Guinée-Conakry et sur le reste de l'Afrique? Parce que du coup, Oumar disait, on a l'impression qu'il y en a plus en Afrique qu'en Europe. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Alors, le constat aujourd'hui est que ces IST sont en constante progression. Quand je prends, par exemple, la situation de la Guinée, en 2015, dans les structures de santé de la Guinée, 187 000 cas d'IST ont été notifiés. Je dis bien notifiés dans les structures. Ça, c'est en dehors de ceux qui vont se soigner, qui passent directement à la pharmacie acheter des médicaments ou qui font l'automédication. Et 2016, on s'est retrouvé avec 234 000 cas d'IST justement notifiés dans les structures de santé. Mais ce qui est remarquable, comme on est en train de parler des jeunes, c'est que près de 50% de ces cas d'IST notifiés étaient rencontrés chez des jeunes âgés de 15 à 24 ans.
Et est-ce que la tendance continue à être de commencer par consulter le tradipraticien avant de venir vous voir?
Non seulement il y a cet aspect, mais aussi il y a l'automédication. Il y en a qui consultent des tradipraticiens, mais il y a l'automédication. Une fois de plus, en ce qui concerne le cas particulier des jeunes, c'est difficile pour eux d'aller dans les structures de santé se présenter lorsqu'ils ont des IST.
Et alors, qu'est-ce qui est fait en termes d'information? Puisque le but de notre émission d'aujourd'hui, c'est essayer de voir qu'est-ce qui est fait en termes d'information auprès des jeunes. Est-ce que, vous nous avez bien dit que c'était tabou, on a du mal à en parler avec les jeunes, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé pour informer les jeunes sur la sexualité de façon générale, mais aussi sur les IST?
Bon, sur les IST, mais les gens mettent beaucoup plus l'accent sur le VIH-SIDA. Donc, du coup, les gens ne prennent pas en considération les autres IST dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours les mêmes modes de transmission, mais c'est important d'insister sur les autres modes de transmission. Par exemple, les jeunes, par exemple, quand ils vont faire un test de dépistage, ils trouvent qu'ils sont séronégatifs, ils estiment qu'ils n'ont pas de VIH-SIDA, mais ils ne prennent pas en compte les autres IST. L'autre élément important, c'est la non-disponibilité aujourd'hui. Dans la plupart des pays africains, plus précisément en Guinée, on parlait tout à l'heure de condylome, je peux vous donner des chiffres sur le condylome. Rien que cette année, dans mon service, nous avons eu 120 cas de condylome et les 30 étaient chez des jeunes. Alors, quand je prends par exemple, nous n'avons pas aujourd'hui de vaccin dans notre pays contre les human papillomavirus. Donc, ce qui fait que la prévention sur ce plan-là, également, elle devient un frein justement à la prévention globale des IST.
Et est-ce qu'il y a aussi des difficultés de dépistage et de diagnostic qui ne sont pas forcément disponibles partout, j'imagine bien dans votre CHU, mais pas forcément dans les centres de santé?
Alors, la politique quand même qui est mise en place dans notre pays, c'est la prise en charge syndromique des IST. Ce qui fait que dans tous les centres de santé, on a la possibilité d'avoir accès au traitement des IST grâce à cette prise en charge syndromique, qui est basé sur un certain nombre de syndromes, écoulement urétral, écoulement vaginal, ulcération génitale, etc., etc. Donc, dans ces structures-là, les centres de santé, les médicaments sont disponibles. Il y a des kits qui sont mis en place par le gouvernement et plus précisément par le ministère de la Santé. Mais, une fois de plus, comme nous sommes en train de parler des jeunes, le plus important, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, mais aussi que les parents acceptent de discuter avec ces jeunes-là de la sexualité. Parce que avec tout ce qu'on a aujourd'hui, comme moyen de communication, chaque jeune a un smartphone, a la possibilité d'avoir accès aux informations en dehors de la Guinée, donc peut avoir beaucoup d'informations sur la sexualité. Mais il faudrait donc que les parents aient le courage de discuter avec les jeunes pour pouvoir les aider à éviter de contracter donc ces maladies.
Docteur Karine Favier, une réaction par rapport à ça. On voit bien le tabou que ça peut être en Afrique, mais finalement, on n'est pas tellement meilleurs, nous, en France, en termes d'information.
Alors, je trouve très intéressant votre réflexion sur les parents. Dans le colloque hier, une partie d'une table ronde a été consacrée justement à la mobilisation des parents pour l'acceptation de la sexualité de leurs jeunes et l'accompagnement de ces jeunes, alors que les parents sont démunis, parfois veulent pas voir ou ne savent pas comment en aborder ces questions. Et qu'on retrouve exactement ce que vient de dire le professeur, on retrouve exactement les mêmes mécanismes à des degrés divers. C'est vrai qu'on a peut-être plus facilement accès à des lieux de soins et à une information, puisqu'il y a une loi qui dit qu'il faut faire de l'information à la sexualité, mais concrètement, on se rend compte qu'on a les mêmes mécanismes de frein, c'est-à-dire le tabou reste quand même sur la sexualité des jeunes. On a encore des parents qui sont en difficulté pour en parler, et je crois que cette nécessité de travailler aussi avec les parents et avec l'ensemble de la société sur l'acceptation des jeunes de leur sexualité et de leur accompagnement à l'autonomie, plutôt que de se voiler la face ou de leur faire la morale, ce qui ne fonctionne absolument pas, ni en Afrique, ni en France.
Juliette Macaire, vous voulez réagir?
Oui, si je peux me permettre, en effet, vous avez tout à fait raison, et on commence incessamment sous peu à sensibiliser les parents. Là, ça va être prochainement des animations qu'on va faire pour eux.
C'est toujours difficile pour les parents d'imaginer que leurs enfants ont une sexualité. C'est ça.
Ouais, hein.
Ça reste un sujet compliqué. Merci beaucoup, hein, professeur Mohamed Cissé. Je rappelle que vous êtes chef du service de dermatologie au CHU de Donka en Guinée-Conakry.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on essaye de voir comment mieux lutter contre les infections sexuellement transmissibles chez les jeunes. On a au téléphone Samuel qui nous appelle aussi de Guinée-Conakry. Ben aujourd'hui, vous nous appelez tous de Guinée-Conakry. Bonjour Samuel.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Oui, au fait, moi j'ai eu des relations sexuelles à l'université quand j'avais 21 ans. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Et j'ai eu des relations non protégées et j'ai été infecté par la gonococcie. Donc, comme ça, j'avais très mal et j'ai été à l'hôpital. Et quand j'ai été à l'hôpital, le médecin m'a fait des analyses et ça a été dit que je suis infecté par la gonococcie.
Et quelle est la question que vous aviez envie de poser?
Voilà. Parce que moi et la fille, on a fait 4 mois ensemble. Souvent, j'avais eu des relations sexuelles avec elle, mais je n'avais rien senti. Sauf pendant maintenant, le 5e mois, vraiment, j'ai senti maintenant le mal à moi. Donc maintenant, j'aimerais savoir pourquoi ça a mis beaucoup de temps avant de se manifester.
Voilà. Est-ce que vous auriez pu savoir plus tôt que vous aviez été infecté, docteur Karine Favier?
Ben, sur les infections à gono, c'est vrai que le dépistage se fait en général à partir des signes cliniques. C'est vrai qu'on a du mal, en dehors de la protection des relations, effectivement, par les préservatifs, hein, internes, externes, puisqu'on a les préservatifs masculins et féminins. Donc, en dehors de la prévention de la transmission des IST par les préservatifs, c'est vrai qu'il y a des maladies pour lesquelles on fait un dépistage systématique quand on c'est possible et accessible, comme le papillomavirus ou le chlamydia, ou qu'on peut faire dans les centres de CEGID ou de centres de dépistage ou centres de planification. On fait des dépistages systématiques avant qu'il y ait des signes, parce que ce sont des infections qui ne donnent pas de signes. Par contre, c'est vrai qu'une infection comme la gonococcie, c'est plutôt une infection qu'on traite à partir des moments où elle donne des signes. On peut pas faire des recherches de gonococcie sans qu'il y ait de signes comme ça, de façon un peu systématique. Après, comment la contamination s'est produite, c'est toujours extrêmement compliqué. Les IST sont un grand sujet dans les couples, de discussion sur la fidélité, sur les rapports extra-conjugaux et sur comment j'ai attrapé ça. Et c'est vrai que c'est toujours des enjeux de discussion dans les couples.
Importante, hein, parce qu'évidemment, il faut prévenir son partenaire.
Et ça fait partie des freins. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, en consultation, des fois disent « Vous êtes sûr que je peux pas l'avoir attrapé dans les toilettes? Ça serait quand même beaucoup plus facile à faire passer. » Non.
C'est pas possible.
Et donc, c'est vrai que c'est aussi un accompagnement à évoquer la question de la sexualité avec le partenaire, et puis comment informer son partenaire de cette IST, l'amener à se dépister, à se soigner, parce que c'est aussi comme ça que les IST continuent à se transmettre. Quand on se soigne en cachette et qu'on prévient pas le partenaire parce qu'on a peur du retour, du coup le partenaire reste infecté et puis
va en contaminer d'autres après.
Et peut en contaminer d'autres. Donc je crois qu'il y a une possibilité de soins qui doit être développée, mais aussi un accompagnement à informer son partenaire, comme on est en train d'y réfléchir au Conseil national du SIDA sur l'accompagnement à donner son statut quand on est séropositif pour le VIH. Pour les IST aussi, c'est des enjeux de
santé publique,
d'interaction, d'interaction dans les entre les personnes, et il faut les accompagner à dire leur situation pour éviter pour la rupture de la chaîne de transmission.
Juliette Macaire, vous voulez réagir?
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi la confiance en soi, aussi l'estime, pour avoir un certain courage aussi de se dire il y a une responsabilité de santé publique, et donc du coup de pouvoir transmettre les infos, quitte à ce qu'en effet ça puisse blesser, parce qu'on a été potentiellement voir ailleurs, certes, et en même temps, bah, y a une responsabilité un peu de chacun, de chacune, de pouvoir informer. Ouais, son...
Juste du coup, docteur Karine Favier, je voudrais vous faire part d'une question qui nous a été laissée par Emar, qui est à Brazzaville au Congo, qui dit « Il y a 2 ans, ma fille avait 15 ans, suite à des examens, on a découvert qu'elle avait une blénorragie. J'aimerais savoir comment elle a pu avoir cette maladie alors qu'elle n'est jamais allée voir un homme. » Bah, si, peut-être qu'elle est allée voir un homme.
Peut-être,
c'est ça que
peut-être, peut-être qu'aussi qu'il y a eu une transmission sans qu'il y ait rupture de l'hymen et sans pénétration, simplement par des rapports génitaux, sans pénétration, ce qui fait qu'elle a, la famille pense peut-être qu'elle est toujours vierge et qu'elle n'a pas eu de relation, mais il peut y avoir des relations sans qu'il y ait pénétration, avec éjaculation près de la vulve et du coup, transmission d'infection. Donc, la gonococcie est pas arrivée toute seule comme ça par les voies du ciel, et je pense qu'il y a eu en tout cas des contacts physiques, même s'il n'y a pas eu de pénétration.
Et d'où l'importance, je ne sais pas vous, Juliette Macaire-Vergier, mais d'où l'importance d'avoir je vous pose cette question, Juliette Macaire, des lieux où on peut aller consulter, où les parents n'ont pas besoin d'être au courant qu'on a eu une relation sexuelle.
Oui, tout à fait. Nous, on relaie bien les centres de dépistage, les CEGID en l'occurrence.
Centres de dépistage anonymes et gratuits.
Voilà. On a, les plannings familiaux, il y a beaucoup de lieux où on peut.
En France, mais c'est plus compliqué en Afrique.
Oui, pour l'Afrique, en effet.
Voilà. Oui, vous vouliez réagir.
Je voulais réagir sur ce point-là. Tout à l'heure, on parlait de l'éducation à la sexualité, du rôle des parents dans l'information, etc. Il ne faut pas oublier que l'adolescence, c'est un âge où on construit son intimité. Et donc, en fait, si certains jeunes, certains parents souhaitent s'impliquer dans cette éducation, très bien. Mais on doit favoriser en complémentarité une offre qui permet aux jeunes d'en parler à l'école, mais également dans d'autres structures, auprès de structures de dépistage ou auprès juste de professionnels qui sont sensibilisés, qui seront capables de les orienter. Vers des professionnels.
Juliette Macaire.
Oui, et puis en plus, on parlait de ces fameux smartphones maintenant où ils ont un accès constant. Il y a des sites internet qui sont super ludiques pour eux, ou pareil, en dédramatisant, ça pique, ça gratte, ça brûle, c'est rouge, bon, bah
qu'est-ce
oui,
que je fais
voilà.
Avant de venir justement aux propositions que vous faites pour améliorer cette information auprès des jeunes, je voudrais qu'on prenne un dernier auditeur avec Sylvain qui nous appelle du Tchad. Sylvain, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute, Sylvain.
Oui, en fait, moi, c'est pendant le débat avec les jeunes filles et les femmes de la classe. Elles m'ont fait comprendre qu'elles veulent apprendre ou bien utiliser le préservatif parce qu'elles jugent ça, c'est là. C'est même le préservatif qui cause des infections. Quoi. Donc, elles n'ont pas en sorte confiance.
Elles n'ont pas confiance dans le préservatif.
Alors, pour moi, c'est la question de savoir comment faire pour les convaincre à utiliser.
Alors, Sylvain, c'est intéressant, parce que nous, on a plutôt toujours eu des témoignages de femmes qui nous disent que les hommes ne veulent pas utiliser de préservatif. Vous, vous êtes en train de nous dire que c'est les femmes qui ne veulent pas utiliser de préservatif. C'est très bien qu'on réponde à cette question, parce qu'on va parler de l'importance du préservatif. On va faire un tour de table pour cette question-là. Docteur Karine Favier, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Sylvain?
Je crois qu'il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce qu'il y a eu des expériences où elles ont entendu des... Vous savez, chez les adolescents, chez les jeunes, la place de la parole des pères est nettement plus intéressante et plus importante que celle des soignants.
Que la vôtre.
Donc, que la nôtre, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus... On arrive fréquemment, on entend fréquemment, oui, mais ma copine m'a dit que... Vous me dites ça, mais ma copine m'a dit que... Donc, et la copine, c'est quand même beaucoup plus important. Donc, je crois qu'il faut essayer d'abord de savoir d'où vient cette information. Est-ce qu'il y a eu des expériences qui lui font penser que ça s'est passé?
Que le préservatif pourrait être infecté, c'est ça en fait.
Que le préservatif pourrait transmettre... D'où vient cette information, essayer de comprendre ce qui se passe et après essayer de lui donner des informations qui sont scientifiquement sur des espaces des sites ou des brochures d'explication, essayer. Mais je crois que quand on n'arrive pas à déconstruire ce qui fait frein, on peut toujours siffler, ça rentre pas dans les oreilles. Donc ça c'est mon expérience. Et donc après, discuter, essayer de faire participer. Et après, peut-être voir si le préservatif féminin peut être accepté parce que là, il y a la maîtrise et peut-être il y a une méfiance vis-à-vis des garçons qui fait que elles ont peur qu'ils ne mettent pas comme il faut. Voilà.
Quelque chose.
Je crois qu'il
ça.
Faut chercher ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Les autres intervenants peuvent.
Féril Camille, le préservatif, de toutes les manières, il est dans un sachet hermétique protégé.
Oui. Moi, je voulais réagir sur un point particulier qu'on avait identifié dans le rapport. C'est les enquêtes socio-comportementales auprès des jeunes sur l'utilisation du préservatif et son efficacité. On se rend compte que le préservatif, lors du premier rapport et même les rapports suivants, est plutôt bien utilisé, on va dire. Cependant, on se rend compte, enfin, c'est une norme préventive qui est plutôt bien acceptée par les jeunes, mais quand on pousse les questionnements un peu plus loin sur son efficacité, là, on se rend compte que beaucoup de jeunes, enfin, une part importante, a l'impression que c'est pas si efficace que ça. On l'utilise quand même parce qu'on nous a dit qu'il faut absolument qu'on l'utilise. On sait pas trop pourquoi, mais on continue de l'utiliser.
Donc manque d'information, on en revient à ça.
Toujours.
Macaire, vous vouliez réagir.
C'est vrai qu'il nous arrive beaucoup de fois, nous les animateurs animatrices lors de ces animations, de remontrer aussi. Alors oui, donc il y a ce sachet dont vous parlez, mais il est aussi dans un emballage. Cet emballage, il n'est pas là pour faire beau, parce que on l'a peut-être dans sa poche, on va danser, on fait ci, on fait ça dans son portefeuille ou quoi, et plus on le triture, etc. Bon, c'est rarissime, mais oui, plus on le touche, etc. Ce préservatif, sans son emballage, où il peut potentiellement, du coup, avoir des fissures, etc. Donc,
puis il faut savoir bien l'utiliser aussi. Finalement, on ne dit pas assez.
Et ensuite, on l'ouvre, on le fait ensemble, vraiment toute la décomposition de toutes les étapes. Et de ce préservatif sur l'utilisation.
J'aimerais bien qu'on fasse un dernier tour de table sur ce que vous demandez justement pour améliorer cette information sur les questions de sexualité et d'IST. Je vais commencer avec vous, Karine Favier, et peut-être avec cette question d'une offre entre guillemets dématérialisée de dépistage avec des autotests et des autoprélèvements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors, actuellement, il est disponible sur Internet, à la fois de l'information, hein, puisque le recours au site Internet est vraiment fréquent, en particulier chez les jeunes, mais aussi la possibilité d'avoir accès à des outils où on peut soi-même se dépister, que ce soit pour le chlamydia, que ce soit pour le sida maintenant, hein, les autotests, et aussi pour le développement d'outils où on pourrait avoir en même temps le résultat et se traiter de façon autonome. Donc c'est, disons que la philosophie, c'est de dire, il faut une palette de possibilités pour que tout le monde y trouve son compte. On a vu hier dans le colloque qu'on va pas s'adresser de la même façon forcément aux jeunes gays qui sont au marais ou au fin fond de la campagne, mais tous ont besoin de la même écoute, de partir de leurs besoins et de leurs difficultés pour qu'on trouve les propositions qui vont correspondre à leur situation. Et donc, je crois que il faut à la fois la promotion du préservatif, il faut la promotion du dépistage pour ceux qui n'utilisent pas les préservatifs, il faut l'information pour que on sache que s'il y a le moindre signe parce qu'on s'est pas protégé, il faut venir consulter, il faut se faire dépister, et puis qu'il y a des outils où on peut, en toute discrétion, savoir où on en est, se dépister et se traiter.
De façon très concrète, sur le chlamydia, justement, en fait, on peut faire un système d'auto-prélèvement avec un genre de bouillon, on met ça dans un sac et ça part en analyse, c'est ça?
Le prélèvement aujourd'hui, de toute façon, pour les filles, c'est un auto-prélèvement avec un petit coton qu'on va mettre au niveau du col et qu'on envoie. Et on le fait déjà dans les laboratoires, c'est déjà des auto-prélèvements. Ça peut se faire sur Internet. Pour les garçons, c'est le premier jet des urines. On va avoir un petit flacon qu'on va bien fermer et qu'on va envoyer au laboratoire. Et on va recevoir le résultat et on va pouvoir se traiter et pouvoir être suivi dans la confidentialité. Pour certaines personnes qui
sont... juste parce qu'il ne reste plus qu'une minute. Je voudrais donner la parole aux deux autres intervenants.
Alors, je laisse la place.
D'accord. Feriel Kramdi, qu'est-ce que vous demandez?
Qu'on se rappelle que 40% des IST ont lieu chez les jeunes, que nos différentes institutions, que ce soit également au niveau national, régional et aussi local, prennent en compte cette question et mettent en place à la fois une prévention, un dépistage, une vaccination et une prise en charge médicale adaptée.
Plus de mobilisation, et vous dites
pour
aussi
l'ensemble des jeunes.
Et s'inspirer du modèle britannique, on n'aura pas le temps de le développer, mais qui apparemment est intéressant. Voilà, exactement. Juliette Macaire.
Oui, on a parlé aussi, donc très court, des pénétrations. Ne pas oublier que les rapports sexuels buccaux sont des pénétrations. Mmh. Et en l'occurrence, on peut l'oublier, certains jeunes peuvent l'oublier. Et auquel cas, s'il y a des relations sexuelles buccales, le dépistage.
Merci
aussi.
Beaucoup à toutes les trois d'être intervenues. Merci beaucoup à France Bleu Hérault de nous avoir permis d'établir cette liaison. Et demain, nous parlerons de la prostate.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.